Fabienne Mignot vira à bâbord, en guettant sur une étroite partie de la bande radio un signal au milieu des parasites omniprésents dans les nuages de Vénus. Les ailes noires de son avion vibraient, et l'acide sulfurique brûlant laissait des traînées tremblotantes sur le fuselage en nanotubes de carbone. La vapeur réduisait fortement la visibilité. Elle le repéra de nouveau, à peine audible. Un très faible signal radio de maintien de position, du genre utilisé par les coureurs au sein de leur chalutier pour limiter la dispersion de leur troupeau. Elle avait laissé son habitat chalutier, la Marotte, une dizaine de kilomètres plus haut, dans la couche nuageuse. Elle avait plané jusqu'au 40e rang, en suivant les traînées de panache volcanique, des filets filtrants en remorque, pour récolter des cendres flottantes plus riches en métal, espérait-elle, que la fois précédente. Avec son moteur électrique éteint, elle arrivait à guetter à l'oreille le léger bourdonnement radio d'un câble de chalutier sauvage en train de se déplacer dans les nuages. Capter un signal de chalutier apprivoisé l'avait surprise. Personne ne s'attendait jamais à croiser une autre famille de coureurs dans l'immensité de l'atmosphère vénusienne. Et elle ne pensait pas qu'il y en avait à cette latitude, sauf si cette famille courait derrière les mêmes panaches volcaniques qu'elle. Il pouvait s'agir d'un chalutier apprivoisé, ayant perdu son troupeau, ce qui signifiait du métal à récupérer gratuitement. Avec un minimum de reprogrammation, un chalutier que quelqu'un ait perdu pourrait devenir un des siens. Mais si elle n'avait pas uniquement trouvé un chalutier perdu, la situation risquait de se compliquer. À vrai dire, personne ne savait que les Mignot disposaient d'un avion. Elle avait volé, au cours d'une tempête, des mois auparavant, juste sous l'atelier où la vieille Orphélie l'avait construit. Depuis, elle le pilotait en toute discrétion. Si un coureur la repérait et qu'elle ne s'identifiait pas, on la prendrait pour une espionne ou une voleuse. Et si elle s'identifiait, expliquer l'avion serait très délicat. Cela dit, en vol plané avec son moteur coupé et la radio en réception sol, elle ne devrait pas attirer l'attention. En redressant, elle s'aperçut qu'il n'y avait pas qu'un seul signal. Elle en compta trois ou quatre. Elle avait trouvé le troupeau de quelqu'un. La silhouette d'un chalutier de taille moyenne apparut, nébuleuse, avec sur sa couronne le contour flou d'une antenne et d'une hélice. Elle n'était pas sûre de la direction des autres et préférait éviter de survoler sans crier gare l'habitat de quelqu'un. Encore que s'il y avait là un habitat, elle ne se serait pas attendue à si peu de bruit radio. Avait-elle trouvé un groupe de chalutiers perdus suffisamment automatisé pour rester ensemble? Elle n'eut pas cette chance. Sur tribord, elle croisa un autre chalutier, sombre, et dont ne sortaient que de faibles transmissions de maintien de position. Puis, dans la brume, se profila une grande forme, la plus vaste qu'elle ait jamais vue dans les nuages, sombre elle aussi, et totalement silencieuse. « Chris, qu'est-ce que c'était que ce truc ?» Elle vira à bâbord, tout en sortant une longue vue de fabrication artisanale. Dans la brume, il n'était pas facile de reconnaître la silhouette. Elle ne comprit pas certaines des parties qui la constituaient. On aurait dit trois ou quatre gros chalutiers qui flottaient en formation, comme pour de la voltige, mais ça ne tenait pas debout. Insérant dans la longue vue une petite extension photographique, elle se mit à enregistrer les images. Entre les quatre câbles des chalutiers, elle distingua une silhouette bosselée, plus grosse que les chalutiers, mais sans câble qui pendait. Ou alors, peut-être au-dessus ? Avec toute cette brume, c'était impossible à dire. La forme ne semblait même pas avoir une vraie tête. On l'aurait dite brisée en fragments, dessous comme si des pointes et des nervures étaient accrochées à ce qui ressemblait à l'extrémité d'un parapluie. S'il s'agissait d'une tête de chalutier cassée, comment pouvait-elle flotter ? Chapitre 1. Fabienne Mignot vira à bâbord, en guettant sur une étroite partie de la bande radio un signal au milieu des parasites omniprésents dans les nuages de Vénus. Les ailes noires de son avion vibraient, et l'acide sulfurique brûlant laissait des traînées tremblotantes sur le fuselage en nanotubes de carbone. La vapeur réduisait fortement la visibilité. Elle le repéra de nouveau, à peine audible. Un très faible signal radio de maintien de position, du genre utilisé par les coureurs au sein de leur chalutier pour limiter la dispersion de leur troupeau. Elle avait laissé son habitat chalutier, la Marotte, une dizaine de kilomètres plus haut, dans la couche nuageuse,